Alors bon, on va reprendre les choses dans l'ordre et on peut commencer par exemple par reprendre ce qui a été abordé dans ma revue de presse. Alors cette analyse là qu'on entend, cette analyse en forme de slogan en fait, « Vos guerres, nos morts », vous trouvez que c'est défendable, que vous la partagez, c'est pertinent, Quentin ?
D'un certain point de vue je pense, mais pas entièrement. Moi je me reporterai à un billet récent qui a été écrit sur un blog de Mediapart par le sociologue et politiste Philippe Corcuff, qui justement montrait bien en fait les deux dérives en quelque sorte auxquelles était soumise la gauche. D'un côté ce qu'il appelle une dérive républicaniste et de l'autre une dérive gauchiste plutôt. Donc la dérive républicaniste, je ne vais pas en parler cent ans, c'est tout simplement cette espèce de dérive sécuritaire et une volonté à tout prix de ne lutter contre Daesh que via une forme de répression plus ou moins guerrière.
Oui, donc ça c'est Valls, le républicanisme.
Voilà. Oui. Enfin, si on veut, mais on peut appeler ça comme ça. Et ce qu'il appelait au contraire la dérive gauchiste, et ça me paraissait très juste aussi, c'est le fait précisément d'une réaction, comment dire, épidermique à cette doctrine Valls. C'est-à-dire que puisque Valls dit cela, nous on va penser exactement le contraire. Et à mon avis, c'est aussi stupide, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais quand, par exemple, dans les analyses, bon, dans les communiqués du NPA, on ne parle quasiment pas de l'islamisme. Or, bien sûr, on peut critiquer les dérives sécuritaires.
Non, le mot n'est pas employé. Hein.
Voilà, on peut critiquer les dérives sécuritaires, et ça me paraît tout à fait sain démocratiquement, et il faut vraiment le faire, tout en parlant quand même de la menace islamiste qui est également un problème. Et justement, et ça, précisément parce qu'on ne veut froisser personne ou on veut à tout prix prendre le contre-pied des initiatives du gouvernement, on finit par faire comme si en fait ben, les attentats avaient été faits en organisation, c'est pas par qui, voire même n'avait pas eu lieu. Je plaisante, hein, c'est pas du complotisme, mais bon, voilà. Y a peut-être cette tendance qui me paraît négative.
Ouais, moi, pour rebondir sur ce que dit Quentin, pareil, je suis très partagé sur ce slogan. Et je pense qu'il aurait eu plus d'actualité peut-être en 2003 au moment de l'intervention américaine en Irak.
Oui, là,
les motifs étaient peut-être plus fallacieux que maintenant.
Totalement.
Ils sont peut-être restés à 2003 ouais. dans leurs analyses finalement.
Mais c'est ça le problème.
Oui, j'ai vraiment l'impression. Bon, après, il faut dire que la France a suivi. Bon, c'était pas le cas en 2003. Hein. Il y avait l'opposition tranchée de Villepin.
Merci Villepin.
C'est comme Godot là, en attendant Godot dans le journal libéral. Visiblement, c'est un des seuls avec les journalistes de l'UMA. À dériver de la critique sécuritaire. Bon, c'était Villepin qui avait fait le plus de bruit contre l'intervention en Irak, deux hommes de droite. Bon, enfin voilà, donc le slogan me semble pertinent si on remonte effectivement à 2003 et peut-être un peu plus discutable aujourd'hui dans la mesure où les motifs ne sont pas les mêmes et là nous sommes directement visés. Bon, on est aussi directement visés a posteriori, hein, peut-être que si on n'était pas intervenu, je ne sais pas. Mais
on a commencé à intervenir directement au mois de septembre. Et il est clair que des attentats d'une telle ampleur, on les prépare depuis plusieurs mois.
Oui, bien sûr, mais janvier, on est intervenu en Irak déjà auparavant. Quoi. Donc,
c'est vrai qu'il y a l'Irak, oui. Et puis alors, il y a ce que défend l'éditorial du Figaro, celui d'une remise en cause, au moins dans les débats de l'espace Schengen. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Faut-il remettre en question la liberté de circulation au nom de la sécurité ?
Bon, enfin, oui, sur cette question-là, je suis aussi très partagé, comme sur beaucoup. Enfin, de toute façon, c'est des débats très compliqués, mais même si avant, ça me semblait un petit peu farfelu d'imaginer que des terroristes potentiels prennent la voie de réfugiés, prennent autant de risques que ça pour traverser des kilomètres à pied jusqu'à nous.
C'est vrai, il y a encore trois mois, ça semblait délirant.
Ça semblait délirant, mais aujourd'hui, après réflexion, après ce qui s'est passé, après témoignage, j'ai l'impression que ce n'est pas si farfelu que ça et que donc, en tout cas, il faut y réfléchir, ça appelle réflexion. Alors qu'avant, je ne pensais pas du tout que ça poserait problème, quoi. Ça me semblait invraisemblable.
On peut passer de là-dessus aux antibiotiques sans aucune transition. Là, j'essaierai même
sujet
pas.
Sujet encore plus joyeux.
Voilà, Léo, j'aimerais bien que tu reviennes sur le contexte justement de ton billet. Cette nouvelle inquiétude au sujet de résistance antibiotique, elle vient d'où ? De Chine, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Tu pourrais l'expliquer un peu ?
Donc sur le contexte, en fait, c'est une étude qui est parue cette semaine, où en gros, donc c'était lors d'un contrôle de routine en fait par des services vétérinaires dans un élevage et donc des analyses classiques de bactéries ou autres. Donc ils se sont rendus compte donc après analyse que ces bactéries étaient donc résistantes à cette classe donc d'antibiotiques notamment la colistine. donc un antibiotique donc qui vise donc les colibacées qui sont des bactéries extrêmement répandues, donc les Escherichia coli notamment,
oui.
Qui sont responsables donc si elles sont situées au mauvais endroit au mauvais moment de troubles digestifs, d'infections urinaires, voire de d'affections plus graves comme des septicémies. Déjà, le fait de retrouver ça dans un élevage, c'était pas une bonne nouvelle. Mais ensuite, ça s'est amplifié quand ils se sont rendus compte que cette résistance était un gène, donc qu'elle était transmissible, qu'ils ont trouvé ça dans de la viande qui venait de cet élevage, dans des patients humains qui vivaient dans la région, qui étaient hospitalisés, et en plus dans le Laos, donc plus au sud, donc ce qui supposait que la mutation était déjà en train de se balader.
Déjà bien répandue, voilà, géographiquement.
Et
oui.
Donc il est très probable avec la vitesse de voyage donc actuelle que dans un ou deux ans, elle ait atteint le monde entier.
Donc ça veut dire que ça se répand comment ? Il y a la consommation de viande et quoi d'autre ?
Bah, les transferts de marchandises notamment, oui. Vu que des bactéries, on en a un peu partout sur le corps, donc elles passent très facilement et elles peuvent survivre très bien, donc par l'alimentation, par aussi des patients par hôpitaux, donc par des patients donc contaminés lors de transferts entre hôpitaux, puis par des personnes en bonne santé qui portent ces bactéries sans s'en rendre compte. Donc après, les aussi par l'environnement, les voies de contamination sont multiples et donc ça explique que la bactérie se répand très très vite par les animaux également.
C'est très rassurant tout ça, vraiment définitivement.
C'est vrai que bon, c'est pas, disons que c'est une pierre en plus sur l'amoncellement de résistance qu'on a déjà découverte, mais c'est vrai que le problème devient de bon, on commence à prendre vraiment conscience du problème, mais bon, c'est comme avec la recherche, il y a une certaine inertie avant de vraiment pouvoir le prendre à bras le corps. Donc c'est une inertie de 10 ans, 20 ans, et pendant ce temps-là, les résistances
sont encore. Oui, la résistance va beaucoup plus vite que 10 ans.
Voilà, on est en retard, c'est ça le problème.
Bon alors, et Mein Kampf, on y vient enfin. Il y a quelque chose que je trouve frappant dans l'argument de Mélenchon, c'est cette prémisse en fait, qui consiste à faire un parallèle entre le contexte actuel et celui des années 30, sur le mode un pays au bord de la guerre civile. Avec ce qu'il dit, c'est une montée des ethnicismes. C'est bien vu pour vous cette comparaison ? Cette mise sur le même plan.
À titre personnel, moi je suis toujours extrêmement méfiant envers les comparaisons historiques. Bon, c'est encore une fois, c'est un point de vue très personnel et c'est vrai que cette comparaison.
Un point de vue d'historien.
Oui, un point de vue d'historien peut-être. Mais en tout cas, le fait de dire constamment que les années 30 reviennent, ça me paraît vraiment.
Gorcuff le dit. Hein.
Oui, je sais, mais j'apprécie beaucoup Gorcuff, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Nous avons discuté l'année dernière d'ailleurs, ce sujet. Et non, je pense qu'effectivement, oui, il y a des points communs avec les années 30. Par exemple, le fait qu'il y a un certain nombre d'idéologies qui sont devenues de plus en plus poreuses les unes aux autres. Mais encore une fois, quand je parle d'idéologie, ça veut dire que je pensais à Michel Onfray, par exemple,
oui.
Qui justement, il y a encore quelques années, était sur une critique qui était, disons, de gauche post-structuraliste, la Deleuze, Foucault, etc. Voilà, et qui maintenant peut ponctuellement, même si c'était pour faire un parallèle, à se référer à Alain de Benoît, par exemple.
Et donc des frontières plus floues.
Des frontières plus floues, mais inversement, je veux dire, les socialistes aussi sont de plus en plus poreux, voire même totalement passoires, au thème du libéralisme, si vous voulez. Donc en un sens, je veux dire, le clivage intellectuel s'est déplacé de toute façon, et pas seulement parce que certains intellectuels seraient soi-disant devenus d'extrême droite. Voilà. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça peut rappeler les années 30, mais après, il me semble quand même que les enjeux et les problèmes sont très très différents. Parce que si vous dites aussi que les années 30 reviennent, il y a des gens qui vont utiliser ce parallèle pour vous dire que l'islamisme, c'est le nouvel hitlérisme, c'est le nouveau fascisme. Bon, et à partir de là...
Ou à l'inverse, que les musulmans sont les nouveaux juifs.
Oui, voilà, ou à l'inverse ça. Donc à mon avis, dans les deux sens. Donc à mon avis, il faut peut-être un petit peu, j'allais dire, laisser l'histoire reposer en paix et essayer au contraire de voir ce qui fait la singularité d'une situation, même si effectivement on peut faire des parallèles qui pour certains sont très pertinents. À ce sujet.
Oui, non mais enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Hein. Il faut pas. C'est vrai qu'il y a plein de parallèles qui sont possibles et parfois qui peuvent être assez délirants, mais je pense que c'est bien quand même d'avoir à l'esprit. Il y a on est dans une période un peu tendue, quoi. Le contexte économique va pas du tout. On a une montée des populismes dans toute l'Europe. On a des phénomènes monstrueux, type Daesh. Bon, voilà, il y a un climat de tension. Et je pense que faire des parallèles, ça peut peut-être permettre de mettre un peu d'intelligibilité là-dedans parce qu'on comprend pas trop, quoi. Et ça me, enfin, je sais pas, j'ai une phrase, je crois que c'est de Churchill qui me revient, qui disait un peuple qui oublie son histoire se condamne à la revivre, quelque chose comme ça.
Oui.
Bon, oui, non, voilà. C'est juste pour illustrer mon propos, qui est de dire que se rappeler d'une période historique telle, enfin, qu'on a réussi à rendre à peu près intelligible, enfin, on la rend jamais c'est jamais vraiment possible, mais ça permet peut-être d'éclairer le contexte actuel dans lequel beaucoup ne, dans lequel on a du mal à comprendre ce qui se passe, quoi.
Mais on peut remonter plus loin dans ces cas-là, parce que si vous prenez par exemple tout un tas de thématiques historiques décadentistes chez des intellectuels, vous en avez chez un certain nombre d'intellectuels des années 1910. Quand vous prenez par exemple l'histoire des cercles Proudhon, qui a rassemblé pendant très peu de temps des intellectuels de l'Action française et des militants du syndicalisme révolutionnaire autour d'un rejet de la démocratie bourgeoise, c'est-à-dire de la démocratie parlementaire. Bon, voilà, vous pouvez aussi faire des parallèles, et certains disent que voilà, ce sont les prémices de Soral, et Soral d'ailleurs le revendique lui-même. Bon, voilà, vous pouvez remonter très très loin si vous le souhaitez, on peut toujours remonter plus loin en quelque sorte, donc c'est pour ça que ça me paraît être une idée.
Non, mais les années 30, c'est un paradigme, mais à la décharge de Mélenchon, il ne fait pas ce parallèle-là dans la lettre, là c'est moi qui ai extrapolé.
Ah oui, non, mais je sais bien.
Oui, c'est clair que ça s'insère dans un ensemble de déclarations qui convergent vers ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'anti-intellectualisme de la part de Mélenchon dans cette manière de dire ça sert à rien de commenter encore et encore Mein Kampf, ça sert à rien de la noter puisque c'est un texte profondément irrationnel, confus.
On peut même annoter des choses qui sont irrationnelles et confuses, justement. Alors, bien sûr,
c'est pas ce qu'il dit, justement.
Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord, justement. Alors, outre, bien sûr, le délire personnel d'Adolf Hitler, on peut aussi, bien sûr, et c'est le but d'un appareil critique, justement, expliquer le contexte de la montée de cet antisémitisme, d'où il vient, quelle est son histoire, de quelle théorie, entre guillemets, racialiste peut éventuellement s'inspirer Adolf Hitler. Voilà, même si après, il y a des passages qui sont juste du délire verbal, surtout qu'en plus Hitler n'était pas quelqu'un d'exagérément cultivé et que, comme on dit souvent, voilà, Mora c'était un grand intellectuel à côté de lui. Mais bon,
oui, Samuel. Moi j'ai l'impression que s'il dit ça, c'est parce que, comme j'ai essayé de le montrer, il a un avis historiographique tranché. Enfin, c'est un intentionnaliste, il pense que ce texte, on a tout dit dessus, quoi. C'est juste un texte qui prépare et annonce le génocide, l'Holocauste, et voilà, il n'y a rien de plus à en dire. Alors que je pense qu'il y a beaucoup plus à en dire.
Oui, moi je suis.
Même si je suis quand même partagé, enfin, de moins en moins maintenant.
Et on finit par l'Iran et sa politique syrienne. Bon, y a quelque chose qui me frappe à chaque fois ici dans cette émission qu'on parle de la Syrie, c'est qu'on finit toujours par buter sur la personne d'Assad. Visiblement, là, dans cette coalition qui se met en place, il y a toujours ce débat entre les Russes, les Iraniens. Qu'est-ce qu'on fait d'Assad? Est-ce qu'on le maintient au pouvoir? Jusqu'à quand? À quel prix? Pourquoi il clive autant le bon Assad?
Bon, ça, c'est une très vaste question. bien, disons que, bon, pour les Russes, encore une fois, je n'ai pas l'impression que l'idée de garder Assad à tout prix soit le but. C'est juste que pour l'instant, comme Assad, la personnalité d'Assad est confondue avec la structure de l'État-nation syrien, ils souhaitent le conserver. Je ne sais pas s'ils ont le même attachement que les Iraniens à la personne d'Assad et à la famille, puisque le clan Assad est quand même aussi, c'est sa propre mafia aussi, en quelque sorte, puisqu'ils se partagent un petit peu des pans de l'économie syrienne, les différents membres de... Puisque c'est un clan, enfin, quasiment. Voilà.
Oui, et alors l'idée des Russes, ce serait de maintenir Assad le temps d'anéantir l'État islamique, et puis dans un second temps d'organiser des élections et de le laisser partir.
Alors ça, je n'en sais absolument rien. Je ne pense pas que le but des Russes soit d'organiser des élections de toute façon, d'une part, et d'autre part, voilà, non, mais pour dire les choses. Oui. Et d'autre part, je pense simplement qu'ils n'ont pas cet attachement jusqu'au boutiste à Assad. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne l'ont pas, ils vont souhaiter l'enlever ou le retirer du pouvoir à un moment ou à un autre. Ce qui, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même deux choses totalement différentes.
Oui,
il y a une nuance importante. Voilà, ils n'ont pas, leur but n'est pas de défendre la personne d'Assad, mais bon, voilà, si pour l'instant Assad continue à se confondre avec l'idée d'État-nation et d'appareil d'État syrien, eh bien, ils le garderont.
Et parce que c'est vrai que le peu d'État syrien qui se maintient, c'est un peu grâce à Assad. Enfin
grâce à. On a du mal autour
d'Assad.
Autour d'eux que grâce à.
On a du mal à lui reconnaître ça et à.
Ah oui, mais bien sûr, mais c'est vrai quand même. Évidemment, bah oui. Puisque de toute façon, c'est le seul qui a une forme de logistique assez développée. Ouais. Puisque, bon, même la fameuse armée syrienne libre, dont qui est saluée, qui était saluée par les médias, bon, elle est quand même composée en grande partie d'islamistes.
C'est le front al-Nusra, Al-Qaïda.
Voilà, bon, alors qu'ils ne sont pas aussi épouvantables que Daesh, c'est sûr, mais ce ne sont pas non plus des gens qui sont favorables à la création d'une démocratie occidentale. C'est très compliqué. Ceux qui sont les plus proches de nos standards, entre guillemets, sont sans doute les Kurdes. Et surtout l'état de Rojava qui lui présente des formes d'expérimentation autogestionnaire qu'il faudra suivre à l'avenir.
On pourra en reparler.
Voilà.
Bon, notre émission touche à sa fin. Alors merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. On a une pensée évidemment pour Maxime et Clément qui ont été retenus ailleurs. Mille remerciements aussi à Rémi, toujours dévoué, même
merci
deux
Rémi.
Fois, mais oui. et pour avoir donc assuré la technique. Le numéro suivant du journal radiophonique amplifié, ce sera a priori dans 2 semaines, avec bien sûr des tas de nouveaux sujets à aborder et surtout, on l'espère, une équipe au grand complet. À bientôt sur Transistor.
Oh non, ne me dis pas, ne me dis pas que c'est fini. Ne me laisse pas vivre sans toi et peut-être sombrer jusque dans l'oubli.